À l'émission Marcher en creusant, nous vous présentons une émission de la série ayant comme titre « Vivre de tout son être », animée par le père Bernard Hugeux, missionnaire d'Afrique, anthropologue, théologien et auteur.
À la fin de notre dernière émission, je posais la question de la réaction de l'Église, des communautés chrétiennes, par rapport à cette affirmation de tant de personnes pour qui il est difficile de vivre un chemin spirituel vraiment personnel dans le cadre des églises ou des communautés chrétiennes. Et je montrais que si nous nous mettons vraiment à l'écoute de cette quête, quête de sens, quête d'absolu, quête de Dieu, peut-être que nous avons aussi à revoir certaines choses par rapport à notre regard sur la sexualité, l'affectivité, le corps, une approche holistique chrétienne de la santé et de la sainteté. Et aujourd'hui, je voudrais parler des miracles de guérison, parce que c'est un sujet important, parce que beaucoup de gens se posent des questions à leur sujet, parce que on en parle encore aujourd'hui, peut-être même plus qu'auparavant, à cause d'expériences qui se passent, peut-être dans de nouveaux groupes de prières. Donc, il serait intéressant de faire le point là-dessus. Ce qui me paraît important, c'est que le rapport qu'on a au miracle n'est plus le même aujourd'hui que celui qu'on avait du temps de Lourdes. Bon, vous savez qu'à Lourdes, en 1858, la Vierge est apparue à Bernadette Soubirous, et à partir de ce moment-là, on a commencé à étudier la question de savoir dans quelle mesure c'était des apparitions authentiques, et on s'est dit qu'une façon de le vérifier, c'était de voir s'il y aurait des miracles à Lourdes. Il faut dire que cette époque était aussi une époque, je vous en ai déjà parlé dans une autre émission, qui était influencée par l'importance qu'on attachait à la raison. Il faut vérifier scientifiquement tout pour pouvoir prouver quoi que ce soit. Il y a donc eu toute une mentalité qui était: on va prouver à travers les miracles que Dieu existe, que la spiritualité c'est quelque chose de sérieux et que ce qui se passe à Lourdes c'est la vérité. Et donc du coup on a donné énormément d'importance au fait qu'un miracle ne pouvait pas être expliqué dans l'état actuel des connaissances de la médecine et des sciences. On a donc utilisé les miracles de façon, comme on dit, apologétique, pour prouver des choses. Alors évidemment, la conséquence, c'est que depuis 1858, donc depuis les apparitions, en fait, il y a eu 6700 cas miraculeux signalés, mais sur ce nombre, il n'y en a que 66 qui ont été reconnus officiellement, ce qui veut dire moins d'1%. Et le dernier miracle qui a été reconnu, c'était le 11 janvier 99. Donc nous voyons que on a été très strict par rapport aux miracles. Mais aujourd'hui, on se pose la question, si on fait dépendre les miracles uniquement de l'approbation ou de la reconnaissance par les sciences ou par la médecine qu'ils ne sont pas explicables, que ce sont des phénomènes de guérison qui dépassent les connaissances, on fait dépendre complètement le miracle de l'approbation ou de la désapprobation des scientifiques en laissant tomber le sens spirituel, théologique du miracle. Et c'est là qu'il y a eu une évolution importante qui s'est faite, entre autres avec le renouveau charismatique, mais pas uniquement, de gens qui se sont dit, dans le fond, il faudrait peut-être revenir au sens étymologique du mot « miracle ». D'où vient ce mot? Il vient d'un verbe latin « mirari » qui veut dire « s'émerveiller ». S'émerveiller de quelque chose, et dans ce cas-ci, s'émerveiller de voir que Dieu est encore à l'œuvre aujourd'hui. Donc le sens premier de miracle, c'est ce qui provoque l'émerveillement et l'émerveillement devant l'action de Dieu. Alors est-ce qu'il faut absolument que cela aille contre ou que cela, oui, que ce soit inexplicable par les sciences? En tout cas, si on veut revenir à la tradition biblique des miracles, nous verrons que c'était pas la question. Et donc, je voudrais vous dire un mot maintenant sur la façon dont les anciens, les gens de l'Ancien Testament, les gens de ces pays-là, vivaient l'expérience des miracles. D'abord, il faut savoir que pour l'homme de la Bible, s'il y a bien une chose qui était certaine et qui était importante, c'est que Dieu est à l'œuvre dans la vie de l'humanité. Dieu accompagne son peuple. Pour l'homme de la Bible, qui n'était pas un scientifique, ce qui était considéré comme miracle, ce n'était pas quelque chose qui allait contre les lois de la nature, mais c'était un événement important, fort, inhabituel, mais pas forcément inexplicable scientifiquement, qui était le signe qu'effectivement Dieu est fidèle à l'Alliance. Et donc, lorsque nous regardons l'Ancien Testament, nous voyons que le modèle du miracle, vous pouvez bien l'imaginer, c'est la libération de l'Égypte, la traversée de la mer Rouge, la manne, le rocher qui jaillit, Dieu qui marche avec son peuple à travers le désert, le précédent et le suivant de la colonne de nuée. Et il faut reconnaître qu'il y a peu de miracles de guérison, par exemple, dans l'Ancien Testament, à part, par exemple, avec le prophète Élie ou un certain nombre d'événements du temps de Josué. Il faut dire aussi qu'à cette époque, les anciens ne faisaient pas la différence entre un miracle de guérison et un exorcisme. À cette époque, on pensait que parmi les causes des maladies, il y avait aussi le démon, il y avait l'esprit du mal. Et même si l'on connaissait des causes physiques de miracles, même si l'homme de la Bible avait toute une pharmacopée, il connaissait les plantes, il soignait, on montre quand même que la maladie a un rapport avec l'esprit du mal. Et nous voyons comment cet esprit du mal a pu provoquer effectivement des ruptures dans le cœur de l'homme, dans ses relations avec les autres, etc. Ça nous met face à la question de l'origine du mal, sur laquelle je reviendrai plus tard, mais déjà, nous voyons que dans la Genèse, on n'explique pas d'où est venu le mal, mais on dit simplement que ce qui a fait que l'homme a posé un acte de rupture avec Dieu, c'est parce qu'il a été tenté par Satan, cet esprit qui s'est dévoyé. Le but de ce récit de la Genèse, c'est bien de dire « le mal ne vient pas de Dieu ». Et si on insiste là-dessus, c'est parce que, à cette époque, il existait des théories selon lesquelles il y aurait eu un Dieu à l'origine du bien et un autre Dieu à l'origine du mal, ce mal étant lié au corps, à la matière. Or, dans la création, on nous dit que tout était bon. Et donc, il n'y a qu'un seul Dieu, créateur de toutes choses, mais le mal s'est introduit dans le monde et il y a eu division et ça reste une énigme qui n'est pas expliquée. Nous voyons d'ailleurs que Jésus aussi reconnaît qu'il y a un rapport entre souffrance et péché à certains moments, puisque pour le paralytique de Capharnaüm, il pardonne les péchés dans le chapitre 2 de Saint-Marc. Cependant, Jésus n'a jamais voulu attribuer une maladie au péché des parents, par exemple. Il n'a jamais présenté ça comme une punition, mais plutôt comme une conséquence. À cette époque aussi, les anciens ne distinguaient pas les miracles concernant les hommes de ceux qui affectent la nature. Je disais tout à l'heure qu'il y a eu la traversée de la mer Rouge. Jésus lui-même, lorsqu'il calme la tempête, eh bien, il va utiliser le langage de l'exorciste pour calmer les eaux et montre qu'il avait autant un pouvoir sur les eaux que celui qui lui a permis, juste auparavant, de guérir la belle-mère de Pierre, par exemple. Donc, à l'époque de Jésus, dans la Bible, il y avait un lien entre maladie, péché, mal, Satan, et Jésus guérissait, exorcisait, et souvent il ne faisait pas la différence entre les deux de façon claire. Pourquoi est-ce que Jésus a guéri? Jésus a guéri, et cela c'est un véritable choix pour lui, c'est parce qu'il s'adressait à des milieux populaires. Cela a provoqué une tension avec ce qu'on pourrait appeler l'intelligentsia, le Sanhédrin, les scribes, les pharisiens. Parce que pour cela, le miracle était quelque chose de secondaire. Ils n'aimaient pas trop les guérisons. Ça ne leur plaisait pas trop, et donc quand Jésus s'est mis à guérir, à certains moments, on lui a même dit « Mais si tu chasses les démons, c'est à cause de Belzébuth. Tu es là en contact avec le chef des démons. » Jésus a guéri parce que dans les milieux populaires, les gens s'attendaient à ce qu'un homme de Dieu guérisse. Il faut dire qu'à cette époque, la Palestine commençait à être influencée par la mentalité grecque, hellénistique, païenne, et qu'il existait des groupes qui guérissaient au nom de divinités. Et pour ceux-ci, les miracles étaient la preuve de la puissance de leur divinité. Je crois que c'est important de se rendre compte qu'à l'époque de Jésus, on se trouvait dans une situation qui était assez proche de celle que nous connaissons aujourd'hui. Comment cela ? Eh bien voilà, sans doute que certains d'entre nous qui nous écoutent ont de la peine à se retrouver devant une religion trop institutionnalisée, où tout serait réglé, où ils auraient l'impression de ne pas avoir assez de liberté de recherche. Eh bien, à l'époque du Christ, dans le bassin méditerranéen, chez les Grecs, chez les Romains, il y avait une désaffection par rapport au dieu de la cité. Vous savez sans doute que, par exemple, à Athènes, il y avait Athéna, il y avait donc des divinités qui étaient des divinités liées à la cité, l'empereur lui-même était lié à une divinité, mais les gens qui vivaient à une époque de grand foisonnement, avec des différences de culture, des différences de religion, eh bien, ont commencé à s'intéresser surtout à des divinités qui pourraient guérir. Alors voilà qu'avec les circulations de personnes à travers le commerce dans le bassin méditerranéen, ils étaient en contact avec l'Asie mineure, avec Isis en Égypte, avec des cultes de Sérapis, et petit à petit des groupes se sont organisés, qu'on a appelés d'ailleurs des groupes en relation avec des religions à mystère, des religions à mystère de salut. Les gens se retrouvaient dans des groupes initiatiques, où ils cherchaient des divinités qui avaient une efficacité thérapeutique, et où de plus en plus salut et santé étaient liés. Les cultes étaient de plus en plus individualistes, puisqu'il ne s'agissait plus de faire un culte officiel de la cité avec l'empereur, etc. Mais on se choisissait sa divinité, on se choisissait son groupe, on allait se faire initier, on allait se faire guérir, on avait sa divinité personnelle, et ça pouvait être le dieu Pan, ça pouvait être Sérapis, ça pouvait être Isis. Si bien que quand Jésus est arrivé, et il a commencé à enseigner, il s'est trouvé dans un milieu qui trouvait normal que l'on guérisse, qui s'attendait à ce qu'un homme de Dieu guérisse dans ces milieux populaires, et ils attendaient un lien entre salut et guérison. Si bien qu'au début, eh bien oui, Jésus a guéri, et beaucoup de gens l'ont suivi, et pour beaucoup de gens, c'était le signe qu'il était bien un homme de Dieu. Pour Jésus, il y avait toujours le lien entre la guérison et l'annonce du royaume, mais ça n'empêche que, en guérissant ainsi, il a joué ce jeu du thérapeute, du thaumaturge, de son temps, et c'était important pour être entendu par les plus pauvres et par les plus petits. Mais il faut reconnaître que pour les juifs, pour les pharisiens, pour les gens en responsabilité, ils étaient très gênés par ces pratiques de Jésus. C'est pourquoi il y a eu vraiment une opposition qui s'est faite au fur et à mesure que Jésus connaissait un grand succès. Bien que lui-même, petit à petit, a bien montré que pour lui, même si la guérison avait quelque chose à voir avec le salut, l'essentiel n'était pas d'abord de guérir physiquement, mais d'accueillir la bonne nouvelle du royaume. Pour les auditeurs qui viennent de nous rejoindre, je rappelle que je suis en train d'expliquer le sens que l'on peut donner au miracle et à la guérison à partir de la mentalité biblique du temps de Jésus et déjà de l'Ancien Testament, et je voudrais l'illustrer par des pratiques du Christ. Mais avant cela, je dirais, Jésus donc n'a pas seulement cherché à guérir les corps, mais s'il a guéri les personnes dans leur corps, c'est bien pour montrer que le salut qu'il apportait concerne toute la personne dans toutes ses dimensions. Il y a à la fois un appel à une conversion spirituelle, mais il y avait aussi une restauration dans le corps, dans le psychisme, dans les relations, et même une réintégration sociale, par exemple, lorsqu'il s'agit des lépreux. Et c'est ce que nous voyons aussi dans notre propre expérience de la guérison, lorsque nous pouvons reprendre une vie normale. Donc à la fois Jésus nous dit mon salut concerne toute la personne, mais en même temps on verra qu'il n'a pas guéri tout le monde. Et donc il n'a pas identifié guérison et salut. Mais ce qui était essentiel pour lui, c'est que à partir de l'expérience de la guérison, l'homme puisse faire l'expérience que le royaume, la bonne nouvelle était inaugurée dans sa personne à lui, à Jésus. Et la plus grande bonne nouvelle de toutes, c'est la révélation de l'amour du Père. Que si Jésus guérit, c'est parce qu'il est le Fils du Père et que nous sommes les enfants bien-aimés du Père. Donc ce qui est important, et on a sans doute beaucoup trop insisté là-dessus à certaines époques, ce n'est pas d'abord le péché. Ce qui est important, c'est la relation filiale que nous avons à vivre avec Dieu. C'est beaucoup plus que la libération du péché comme tel. La bonne nouvelle, c'est que nous sommes choisis, aimés par notre Père pour vivre une relation privilégiée. Donc, voyons comment Jésus a guéri de son temps et quel est le message qu'il essayait de transmettre alors qu'il a toujours refusé de poser des gestes extraordinaires, mais il a posé des gestes de libération, des gestes de guérison. Et pour cela, je voudrais vous donner deux exemples. Un premier exemple, c'est une guérison que Jésus a faite le jour du sabbat, que nous pouvons lire dans l'évangile de Luc au chapitre 13, les versets 10 à 17. Jésus était en train d'enseigner dans une synagogue un jour de sabbat. Il y avait là une femme possédée d'un esprit qui la rendait infirme depuis 18 ans. Elle était toute courbée et ne pouvait se redresser complètement. En la voyant, Jésus lui adressa la parole et lui dit « Femme, te voilà libérée de ton infirmité. » Il lui imposa les mains, aussitôt elle redevint droite et se mit à rendre gloire à Dieu. Le chef de la synagogue, indigné de ce que Jésus ait fait une guérison le jour du sabbat, prit la parole et dit à la foule « Il y a 6 jours pour travailler. » C'est donc ces jours-là qu'il faut venir pour vous faire guérir, et pas le jour du sabbat. Le Seigneur lui répondit, « Esprit perverti, est-ce que le jour du sabbat, chacun de vous ne détache pas de la mangeoire son bœuf ou son âne pour le mener à boire ? Et cette femme, fille d'Abraham, que Satan a liée voici 18 ans, n'est-ce pas le jour du sabbat qu'il fallait la détacher de ce lien ?» À ces paroles, tous ses adversaires étaient couverts de honte, et toute la foule se réjouissait de toutes les merveilles qu'il faisait. Nous voilà donc un jour du sabbat dans la synagogue où il nous est dit que Jésus enseigne. Donc Jésus est là en situation où il a un message fort à nous donner. Qu'est-ce qui se passe? Il y a donc cette femme qui est là et on nous dit, le mot qui est employé, c'est le mot « asthénia ». Que nous connaissons en français, asthénie. C'est-à-dire, cette femme était fragile. Il y a un autre mot en grec pour dire maladie, c'est nosos. Mais ici, on nous dit, cette femme est fragile. Elle est fragile, elle est courbée, elle ne demande rien à Jésus. Elle est vraiment le symbole de la personne repliée sur elle-même. Depuis 18 ans, incapable de s'exprimer dans sa fragilité, à moitié morte, à moitié vivante. Et voyons la première étape, Jésus qui lui adresse la parole. 4 verbes, il la voit, il l'interpelle, il lui dit « Femme, te voilà délivrée de ton infirmité », puis il lui impose les mains. Il y a comme une progressivité, comme un engendrement qui se fait là, et tout d'un coup, comme une rupture par rapport à ce qu'elle souffrait, à l'instant même, elle se redresse et se met à glorifier Dieu. Jésus ne lui avait pas dit « Redresse-toi », mais il lui a simplement dit « Eh bien, te voilà délivrée ». Or, le mot que Jésus emploie ici, c'est « te voilà délié ». En grec, ça se dit « duo ». Et ça nous dit « cette action accomplie ». Et la femme se redresse et glorifie. Elle loue Dieu. Et nous savons qu'un des signes du salut, c'est justement la louange. Et voyons la deuxième étape. Le chef de la synagogue, qui n'a pas le courage de s'adresser directement à Jésus, mais qui parle à la foule. « Il y a 6 jours pour vous faire guérir. C'est pas aujourd'hui qu'il faut venir. » Et dans le « il faut », il y a l'idée de la loi, de ce que dit la Torah. Mais il emploie, lui, le verbe « guérir » en grec qui se dit « thérapeuein », c'est-à-dire le travail du guérisseur, le travail du soignant. C'est pas ce mot-là que Jésus avait utilisé. Et c'est là justement que l'on voit la nuance qui va se présenter entre ce qu'on lui reproche à Jésus et ce qu'il va faire. Et c'est la troisième étape. C'est-à-dire que Jésus va lui dire « esprit faux ». Une autre traduction, ce sera « hypocrite ». En fait, le mot c'est « vous qui manquez de discernement ». Vous manquez de discernement alors que la femme, elle, qui glorifie et que la foule qui se réjouit, elle a bien discerné. Et pourquoi est-ce qu'il manque de discernement? Parce qu'il reproche à Jésus de guérir, dans le sens technique du terme, soigner, ce qui est interdit le jour du sabbat. Alors que ce que fait Jésus, ce n'est pas guérir, c'est délier. D'où Jésus fait le lien avec délier l'animal le jour du sabbat. Il dit, elle est fille d'Abraham, était liée par Satan. Et vous me dites que vous, qui allez délier votre âne pour le faire boire le jour du sabbat, vous allez me dire que je n'ai pas le droit, elle, de la délier, de ce qui l'empêchait de se tenir droite. Et là, Jésus explique d'abord que sa venue, ce n'est pas simplement un travail de guérisseur, mais qu'il apporte ce salut, cette libération, le fait de délier ce qui nous empêche d'exister. Mais il rappelle aussi que le jour du sabbat, c'est le jour où on célèbre la libération. Et donc, en déliant cette femme, il fait ce que l'on célèbre le jour du sabbat, la libération d'Israël. Alors bien sûr, par son explication, par la façon dont il parle et s'exprime, eh bien, il provoque la division. Dans la scène finale, nous voyons qu'il y a deux groupes. Il y a les adversaires qui ne sont pas d'accord, qui estiment que Jésus est un simple guérisseur et qui n'a pas le droit de travailler le jour du sabbat. Et puis à côté de ça, nous retrouvons le verbe « mirari » dont je vous ai parlé, l'émerveillement, la foule qui est dans la joie et qui laisse éclater sa joie en voyant comment Jésus guérit. Ils ont bien compris que Jésus est beaucoup plus grand qu'un guérisseur et que c'est une libération qu'il apporte. Et juste après, vous avez deux petites paraboles, l'une sur le grain de sénevé qui devient un grand arbre, l'autre sur le levain dans la pâte qui fait lever la pâte. Et c'est une façon de dire, cette petite guérison-là de cette femme redressée dans la synagogue, c'est le signe qu'il y a quelque chose de nouveau qui est inauguré par la présence du Christ. Un nouvel âge de libération en Dieu qui va se continuer et qui est aussi puissant que ce grain de sénevé et que cette levure. Voyons maintenant une autre guérison qui nous dit quelque chose de très important. C'est que Jésus nous prend toujours là où nous en sommes. Je vais prendre la guérison de cette femme qui avait un flux de sang. En Marc, au chapitre 5, les versets 24 à 34. Et nous allons voir comment cette femme, au départ, vient avec une demande magique, peureuse, anonyme, et que Jésus va lui proposer bien plus qu'une guérison. Il va lui proposer une relation, il va lui proposer un salut. Donc Jésus partait vers le chef de la synagogue, vers sa maison, pour guérir la petite fille. Et voilà qu'il rencontre donc la foule. Jésus s'en alla avec Jaïr et une foule nombreuse le suivait et l'écrasait. Une femme qui souffrait d'hémorragie depuis 12 ans, elle avait beaucoup souffert du fait de nombreux médecins et avait dépensé tout ce qu'elle possédait sans aucune amélioration. Au contraire, son état avait plutôt empiré. Cette femme, donc, avait appris ce qu'on disait de Jésus. Elle vint par derrière dans la foule et toucha son vêtement. Elle se disait, « Si j'arrive à toucher au moins ses vêtements, je serai sauvée. » À l'instant, sa perte de sang s'arrêta et elle ressentit en son corps qu'elle était guérie de son mal. Aussitôt, Jésus s'aperçut qu'une force était sortie de lui. Il se retourna au milieu de la foule et il disait, « Qui a touché mes vêtements ?» Ses disciples lui disaient, « Tu vois la foule qui te presse et tu demandes qui m'a touché ?» Mais il regardait autour de lui pour voir qui avait fait cela. Alors la femme, craintive et tremblante, sachant ce qui lui était arrivé, vint se jeter à ses pieds et lui dit toute la vérité. Mais il lui dit, « Ma fille, ta foi t'a sauvée, va en paix et sois guérie de ton mal. » Alors ici, nous voyons cette femme qui a entendu dire que quand on touchait Jésus, on pouvait être guéri. On le lit en Marc au chapitre 3. Mais cette femme est en situation d'interdit. Elle n'a pas le droit de sortir de chez elle, parce que ce flux de sang en fait une femme impure. Et elle n'a pas le droit de toucher des gens. Donc, en sortant de la maison et en allant dans la foule, elle est dans un double interdit. Mais elle a entendu parler de la bonté de Jésus et de sa force. Et elle s'approche. Et là, on a un langage qui nous fait un petit peu penser à ce qu'on entend aujourd'hui à propos des énergies. On dit que Jésus a senti une force sortir de lui. C'est évidemment une image qu'emploie Marc pour rejoindre la mentalité de l'époque. Ce que Jésus avait senti, c'était l'attente et la foi de cette femme. Ce n'est pas qu'il y avait un potentiel énergétique dans le vêtement de Jésus. Et c'est bien ce que Jésus veut lui faire comprendre. Elle est venue presque voler sa guérison. Mais Jésus lui montre que s'il la guérit, ce n'est pas de façon magique. C'est parce qu'il voulait la guérir. Et une première chose qu'il montre, c'est qu'il dépasse les interdits. Jésus les interdit par rapport à la pureté et l'impureté. Jésus a toujours refusé cette logique du pur et de l'impur. Il nous appelle à la sainteté, il regarde les intentions de notre cœur. Pour lui, c'est pas se laver les mains, c'est pas manger telle ou telle viande qui rend une personne impure. C'est ce qu'il y a dans son cœur. C'est pourquoi il n'est pas gêné de se laisser toucher par cette femme en situation d'impureté. Et qu'est-ce qu'il lui dit ? Après l'avoir guérie, il lui dit « ma fille ». Donc c'est comme aussi ici un réengendrement. Il lui dit « ma fille » et il lui dit « ta foi t'a sauvée ». Et en disant cela, c'est une façon de lui dire « tu sais, tu es guéri dans ton corps, mais le plus important n'est pas là. C'est que tu m'aies fait confiance, que tu m'aies rencontré ». Et là nous voyons que quand Jésus guérit, c'est toujours pour offrir un salut, une véritable guérison de tout l'être, du corps, du cœur, de toute la personne. Donc Jésus a accepté l'ambiguïté de cette demande, et dès qu'il entend un balbutiement, dès qu'on lui fait confiance, il guérit. Il nous prend là où nous en sommes, et au-delà d'une guérison, il nous propose une relation, un amour, et ça c'est le vrai salut.
Vous venez d'entendre « Marcher en creusant » avec le père Bernard Hugeux, missionnaire d'Afrique, anthropologue, théologien et auteur.